Les colloques du Collège de France.
Bonsoir à tous, merci d'être encore là à un moment important de cette réunion, parce qu'après tout, tout ce dont nous discutons depuis hier matin concerne les patients, par définition. L'hôpital est là pour soigner les patients, améliorer les soins des patients, et rien ne peut se faire sans les patients. Donc il était temps de leur donner la parole, et en l'occurrence, ce sera une patiente, est très engagée dans le rôle justement des patients dans le développement de la santé et d'une manière plus large des aspects sociaux autour de la maladie. Et donc c'est Ivani Caillé qui arrive, qui va nous faire cet exposé. Donc Ivani est par ailleurs ingénieur et a créé il y a maintenant un certain nombre d'années, combien d'années, Renalou, c'était quand ?
24 ans.
24 ans ? Il y a 24 ans, une des premières associations de patients concernant les maladies rénales, une association qui est toujours très dynamique, qui s'appelle Renalou. Et donc, le mieux, c'est de lui laisser la parole. Ivani.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et merci beaucoup aux organisateurs de me donner la parole ce soir sur un sujet qui est extrêmement important, évidemment. Ce que je voulais dire un peu en introduction, c'est que la plupart d'entre nous vivent longtemps avec l'idée que l'hôpital est un lieu extérieur à nos vies, un lieu où on va parfois pour une urgence, pour un examen, un problème ponctuel, un lieu important bien sûr, mais qui reste à distance de notre quotidien. Et puis il arrive un moment où cette distance disparaît. Et donc pour moi, ce moment-là est venu quand j'avais 12 ans, quand j'ai appris que mes reins étaient malades. Et à partir de là, l'hôpital n'était plus simplement un lieu que je visitais, c'est devenu un lieu dont ma vie a dépendu. Et finalement, quand ça arrive, on découvre très vite quelque chose d'essentiel, pas seulement une maladie chronique, mais tout un système qui y va autour, un système auquel il n'est plus possible de se soustraire, extraordinairement complexe et puissant, parfois protecteur, mais qui peut aussi être maltraitant. C'est un système dont on apprend peu à peu les règles, parce qu'en réalité, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre les règles. Quand on devient un malade chronique, on change de monde, et c'est quelque chose de définitif, ça ne s'arrêtera pas. Et c'est depuis cette expérience, d'abord comme patiente, puis comme fondatrice d'une association de patients, que j'aimerais partager avec vous une réflexion sur la question qui est posée aujourd'hui, à quoi pourrait ressembler l'hôpital du futur, mais du point de vue des patients. Et pour essayer d'y répondre, on peut peut-être commencer par une observation assez simple. L'hôpital est une institution que la plupart d'entre nous ne connaissent vraiment qu'au moment où ils deviennent vulnérables. On connaît l'école comme des élèves, l'université comme des étudiants, l'administration comme des citoyens, l'entreprise comme des salariés, mais l'hôpital, lui, il reste longtemps à distance de nos vies jusqu'au moment où il devient central. On le découvre souvent dans des moments très particuliers de l'existence, l'accident, la maladie aiguë, la naissance d'un enfant, parfois la fin de vie d'un proche. Et lorsque la maladie s'avère chronique et grave, on le découvre pour ne plus le quitter. Nous sommes confrontés à l'hôpital dans des moments de grande fragilité, et c'est dans cet état de vulnérabilité que nous confions à cette institution un très grand pouvoir, le pouvoir de diagnostiquer, de traiter, le pouvoir d'orienter très concrètement notre avenir et notre trajectoire de vie, lorsque la maladie, encore une fois, est chronique. Et peu d'institutions dans nos sociétés concentrent à ce point la fragilité humaine et la compétence collective. C'est sans doute aussi pour ça que l'hôpital occupe une place si particulière, un des lieux où nos sociétés tentent d'organiser une forme de solidarité profonde face à la vulnérabilité humaine. Face à la maladie, la société mobilise des ressources considérables, des équipes de soignants, des technologies extrêmement sophistiquées, des infrastructures très complexes, des financements très importants. Et l'hôpital a une vision extrêmement égalitaire de sa mission, qui est de soigner. Mais on le sait bien, les inégalités ne s'arrêtent malheureusement pas à la porte de l'hôpital. On connaît tous les tensions auxquelles il peut être confronté, des services saturés, des délais d'accès aux soins, l'épuisement des équipes, les difficultés de recrutement, de fidélisation, de coordination avec la médecine de ville. L'accès même au système de soins hospitaliers dépend fortement des ressources dont dispose
les patients, je parle de leur niveau d'information, de leur environnement social, de leur capacité à mobiliser des réseaux ou simplement à s'orienter dans un univers qui est devenu extrêmement complexe. Tous les patients ne disposent pas des mêmes possibilités pour participer aux décisions médicales qui les concernent, pour défendre leurs intérêts, pour accéder aux mêmes opportunités thérapeutiques ou simplement pour faire valoir leurs droits. Alors nous, en tant qu'association, on essaie d'intervenir pour les y aider. Tous les patients n'entrent donc pas dans l'hôpital avec les mêmes ressources ni avec les mêmes chances, et ces inégalités, elles se prolongent ensuite dans des parcours de soins eux-mêmes. L'hôpital ne fait pas disparaître les inégalités, c'est un lieu où la société tente, parfois avec succès, parfois imparfaitement, de les contenir, et c'est précisément parce que l'hôpital occupe cette place si particulière que les attentes envers lui sont si fortes. Les malades, en particulier les malades chroniques, lui confient l'essentiel, leur santé, parfois leur vie. C'est aussi pour cela qu'ils développent non seulement un attachement, une immense reconnaissance, mais aussi une compréhension très particulière du fonctionnement de l'hôpital, parce qu'ils ne l'observent pas depuis les institutions, depuis les données statistiques, depuis les politiques publiques, ils le vivent de l'intérieur. Et donc, lorsqu'on vit avec une maladie chronique, on finit par apprendre énormément sur le fonctionnement réel du système. On devient, malgré nous, des experts de l'hôpital. On apprend à naviguer dans la complexité de l'hôpital, les services et spécialités, les consultations, les examens, les hospitalisations. On apprend à identifier les forces. On en perçoit aussi très vite les failles. Et ce que voient les patients, c'est souvent ce que le système lui-même voit le moins bien. Les institutions voient les organisations, les patients vivent les parcours dans l'hôpital, les ruptures avec la médecine de ville, l'hôpital et le domicile, les moments où personne ne coordonne réellement les décisions, les retards, les pertes d'informations, les transitions ratées, les impasses administratives, les maltraitances. Les patients connaissent finement ce que les systèmes de santé ont du mal à mesurer, l'impact réel de la maladie et le fardeau du soin. La fatigue, la difficulté à maintenir une vie professionnelle, l'impact des déplacements, les contraintes de l'hôpital, la dépendance, l'incertitude permanente face à l'avenir. Les systèmes de santé sont souvent organisés autour des maladies, mais les malades chroniques, eux, vivent des vies entières avec la maladie et avec le système de soins. C'est pour ça que si on veut réfléchir sérieusement à l'hôpital du futur, il faut impliquer ceux qui ont cette expérience intime de la structure. Si on veut comprendre ce que l'hôpital du futur devra devenir, les maladies rénales offrent un observatoire assez éclairant, et donc je vais vous en parler un tout petit peu. Elles concentrent presque toutes les grandes questions de la médecine contemporaine. La prévention, la maladie chronique, j'en ai beaucoup parlé, l'innovation, l'organisation des soins, les inégalités, et aussi la question des priorités collectives et des choix collectifs. Alors, lorsque les reins cessent de fonctionner, la vie est directement menacée, on ne peut pas vivre sans reins. La médecine dispose de deux réponses extraordinaires, la dialyse et la transplantation, qui ont permis à des patients qui, jusqu'aux années 60, étaient condamnés, de continuer à vivre. Elles permettent de remplacer la fonction vitale des reins, dans un cas avec une machine, dans l'autre en utilisant un organe qui provient d'un donneur décédé ou d'un donneur vivant qui est un proche du receveur. Et ces traitements comptent parmi les grandes révolutions de la médecine du XXe siècle. Ils sont indissociables de l'hôpital. C'est dans les hôpitaux que les premiers reins artificiels ont été développés, que les techniques de transplantation ont été mises au point, que les progrès chirurgicaux, immunologiques, organisationnels ont permis d'améliorer la survie des patients et des greffons. On peut évoquer quelques noms, Jean Burger, Jules Treasure, Jean Dossé. L'histoire de la néphrologie est donc aussi une histoire de l'innovation hospitalière. C'est une réussite médicale considérable, mais elle a aussi un coût humain, organisationnel et financier qui sont majeurs. L'insuffisance rénale terminale représente près de 4,6 milliards d'euros de dépenses chaque année pour l'assurance maladie, pour environ 100 000 personnes qui vivent grâce à la dialyse ou à la greffe. L'essentiel de ce montant est consacré à la dialyse, qui demeure le traitement le plus coûteux par patient pour l'assurance maladie. C'est aussi un des traitements les plus lourds, hein, la dialyse. C'est une organisation médicale et logistique. Ce sont des séances qui durent 4 à 5 heures et qui doivent être répétées 3 fois par semaine, le plus souvent à l'hôpital. Et c'est un traitement qui n'a pas de limitation de durée. La sortie de la dialyse, c'est soit parce qu'on est greffé, soit parce qu'on meurt. Peu de maladies illustrent aussi clairement à la fois la puissance et les limites de la médecine moderne. Sans les centres de dialyse organisés, sans politique de prélèvement d'organes, sans équipe hospitalière spécialisée, sans coordination entre tous les acteurs, ces traitements ne pourraient simplement pas exister. La greffe, activité de recours, ne peut en outre pas être pratiquée en dehors des CHU. Autrement dit, dans la maladie rénale chronique, la survie des patients, les 100 000 là dont j'ai parlé, elle dépend au moins autant de l'organisation de l'hôpital que du progrès médical qui l'a rendu possible. Ça apparaît particulièrement clairement lorsqu'on observe l'accès à la greffe, qui demeure le meilleur traitement de l'insuffisance rénale terminale, puisqu'elle améliore très fortement l'espérance de vie et la qualité de vie par rapport à la dialyse. Elle est aussi beaucoup moins coûteuse pour le système de santé. Et pourtant, l'accès à la greffe reste très difficile en France, tandis qu'il n'existe en France aucune limite à l'accès à la dialyse. Tout le monde peut être dialysé sans aucune difficulté, sans aucun problème. Aujourd'hui, en France, il y a 21 000 patients qui attendent une greffe de rein. C'est considérable, hein, pour environ 3600 greffes rénales réalisées au cours de l'année 2025. Ça vous donne un peu l'ampleur de la pénurie. Et donc, ces patients attendent, et cette attente, elle n'est absolument pas neutre. 700 patients sont morts en 2025 faute d'avoir attendu trop longtemps. Ce sont des patients qui étaient dialysés et qui sont décédés avant d'avoir pu être greffés. Ça représente la majorité des décès en attente d'un organe. Voilà, c'est le rein qu'on attend le plus et duquel on meurt le plus. Donc ils sont morts d'avoir passé de trop longues années en dialyse, tandis que leur état se dégradait avant d'accéder à la greffe. Et pour ceux qui échappent à cette issue funeste, les résultats de la greffe seront eux-mêmes altérés par cette attente. Autrement dit, l'attente de greffe représente une véritable perte de chance et la vraie solution, le vrai traitement de référence, ce serait que tous les patients soient greffés sans passer par la dialyse. C'est ce que recommandent toutes les autorités de santé. C'est une réalité qui devient particulièrement visible lorsqu'on compare les résultats de différents pays et notamment lorsqu'on regarde ce qui se passe tout près de chez nous en Espagne. L'Espagne, c'est le pays qui réalise le plus de prélèvements et le plus de greffes d'organes au monde. Et ce résultat n'est pas du tout lié à une générosité particulière de la population espagnole, contrairement à ce qu'on entend souvent. Les attitudes des citoyens face aux dons d'organes sont assez proches dans la plupart des pays européens et tous les sondages, toutes les enquêtes en population le montrent. La différence, elle tient essentiellement à l'hôpital, à l'organisation hospitalière. En Espagne, le prélèvement d'organes est considéré comme une mission absolument prioritaire de tous les hôpitaux. Chaque hôpital dispose d'équipes de coordination de prélèvement et de transplantation, animées par des médecins coordonnateurs, souvent issus de la réanimation, dont la mission est d'identifier les donneurs potentiels, de réaliser les entretiens avec les proches, d'organiser les prélèvements, etc. Cette organisation qui a été mise en place en Espagne il y a plus de 30 ans, a totalement transformé les résultats du pays. Elle repose sur une idée simple. La greffe est non seulement le meilleur traitement pour les patients, mais aussi l'un des choix les plus efficients pour le système de santé. Je l'ai dit, elle est beaucoup moins coûteuse. Et finalement, l'Espagne s'est rendue compte il y a 30 ans qu'elle ne pouvait pas soutenir le développement de la dialyse, que ce n'était pas soutenable financièrement, et a fait ce choix de miser sur la greffe. Alors en France, l'histoire a été différente. Au fil des décennies, le financement des soins a contribué à structurer une offre de dialyse extrêmement développée, stable, bien organisée. Pendant longtemps, on n'a pas été en manque de financement. Voilà. Ce sujet-là, il est devenu très aigu ces dernières années. Et l'offre de dialyse, elle est extrêmement coûteuse pour le système de santé, mais elle est très rentable pour les établissements qui la proposent. Et c'est aussi une de ses spécificités françaises. La greffe, elle, a été considérée longtemps comme subsidiaire. Et les efforts importants qui ont été réalisés en Espagne n'ont pas encore été mis en place en France. Donc ça amène à poser une question de fond qui est comment est-ce qu'on aligne les priorités de l'hôpital, l'intérêt des patients et celui de la solidarité nationale, car c'est sans doute une des leçons les plus importantes que nous apporte la maladie rénale. Dans la médecine moderne, les résultats ne dépendent pas seulement des avancées scientifiques, ils dépendent aussi surtout des choix que font les systèmes de santé. Choix d'organisation, choix de financement, choix des priorités. En Espagne, 55% des patients dont les reins ne fonctionnent plus sont greffés. Si on prend les 100 000 Français, ça voudrait dire qu'en Espagne, il y en a 55 000 qui sont greffés. En France, ils ne sont que 44 000 à être greffés, 44%. Voilà. Et donc la majorité des patients en France sont traités par dialyse. Mais si on regarde de manière un peu plus fine, le bilan il est encore plus contrasté. Dans les Hauts-de-France, par exemple, la dialyse, elle est extrêmement majoritaire, 63% des patients sont en dialyse et l'accès à la greffe est extrêmement complexe et limité. Dans la région des Pays de la Loire, c'est pas très loin, hein, ils ne sont que 46% à être dialysés et là on est sur des taux qui sont proches de ceux de l'Espagne. Et bien sûr, il y a des motifs épidémiologiques, hein, l'âge, le diabète, etc., qui contribuent à ce paysage. Mais la principale raison, c'est le rôle des hôpitaux dans l'instauration au plan régional d'une vraie dynamique en faveur de la greffe.
La question qui se pose, elle est donc simple. Comment l'hôpital du futur décidera-t-il de priorités de ce type-là et comment contribuera-t-il à leur mise en œuvre en tant que leader d'une politique régionale de santé, à la tête d'un réseau, d'une vision de santé publique? Sur quels critères est-ce que nous organiserons ce système? L'inertie des structures existantes, les incitations, les rentes économiques, l'intérêt des patients, ou une vision plus structurée, raisonnée, construite collectivement de la santé publique? Comment utiliser au mieux des ressources nécessairement limitées? Si l'hôpital du futur veut réellement répondre aux défis du XXIe siècle, il devra non seulement intégrer les innovations scientifiques et technologiques dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui, mais il devra aussi se concevoir comme un acteur pivot au cœur d'un réseau de santé local, régional, en capacité de piloter des stratégies globales de santé, de soins et de parcours. Il devra enfin associer étroitement les patients et leurs associations au choix qui oriente ses priorités, ainsi qu'à l'évaluation des actions menées. Car certaines innovations émergentes pourraient aussi demain transformer profondément la prise en charge de la maladie rénale chronique et d'autres pathologies. C'est le cas, et Alain Fischer en a un tout petit peu parlé, de la xénogreffe, c'est-à-dire de la transplantation d'organes issus de porcs génétiquement modifiés, génétiquement humanisés. Depuis environ 5 ans, ces approches se développent très rapidement aux États-Unis et en Chine. Un premier essai clinique est en cours depuis l'automne dernier aux États-Unis. Et d'ici la fin de cette année 2026, il y aura plusieurs dizaines de patients qui vivront aux États-Unis avec un rein de porc génétiquement modifié. Les approches les plus optimistes prévoient un passage en pratique courante d'ici l'horizon 2030, peut-être même un peu avant. Et si ces approches se confirmaient, la transplantation pourrait entrer dans une nouvelle phase de son histoire, une phase où la xénogreffe animale pourrait d'abord se substituer peut-être à la dialyse en faisant un pont vers une greffe humaine et peut-être demain se remplacer totalement la greffe humaine si la longévité de ces greffons animaux devient suffisante. Mais une telle évolution n'est pas seulement une affaire de science. Elle posera aussi d'immenses questions éthiques, sociétales, très concrètes, y compris pour les hôpitaux qui auront, si la pratique courante arrive, si la recherche arrive, un rôle absolument clé à jouer. Comment préparer les équipes, comment organiser les essais cliniques, comment informer les patients, comment évaluer ces innovations, garantir leur sécurité, assurer un accès équitable, alors qu'aujourd'hui l'Europe est totalement absente de ces développements. Jusqu'à présent, la transplantation reposait sur un modèle très particulier, celui du don d'organes humains, fondé sur les principes de gratuité, de solidarité. La xénogreffe va introduire une nouvelle logique, celle d'organes issus d'animaux génétiquement modifiés, développés par des entreprises, protégés par des brevets, commercialisés en tant que médicaments. Cette évolution pose une question majeure pour l'hôpital du futur, qui sera forcément au cœur de ces innovations de rupture. Comment les intégrer dans des systèmes de santé fondés sur l'égalité, ou tout au moins sur l'équité d'accès aux soins ? Devons-nous simplement attendre l'arrivée de ces technologies développées ailleurs, ou choisir d'en être aussi des acteurs en France, en Europe, afin de garantir notre souveraineté et le respect de nos principes éthiques et de nos modèles de solidarité ? L'hôpital du futur ne sera pas seulement un lieu de soins, il sera aussi un lieu où se décident, se testent et s'organisent les grandes innovations biomédicales et les ruptures thérapeutiques de demain. Et là encore, la voix des patients devra absolument avoir toute sa place. Mais les traitements de suppléance rénale ne représentent en réalité que la partie la plus visible de la maladie rénale. Ces 100 000 patients là, qui sont le sommet de l'iceberg. Et en amont de ces 100 000 patients se trouvent des millions de personnes qui vivent avec une maladie rénale chronique, puisqu'on estime qu'en France, elles sont 5,9 millions, près de 6 millions. Et la grande majorité d'entre elles l'ignorent. Cette maladie rénale chronique, elle est très longtemps silencieuse. Elle progresse sans symptômes jusqu'à des stades très avancés. Et il existe une autre réalité moins connue, c'est que la plupart des personnes atteintes de maladies rénales chroniques n'atteindront jamais le stade de la dialyse ou de la greffe. Pas parce que leur maladie se stabilise ou ne progresse plus, mais parce que ces personnes vont décéder avant, le plus souvent de complications cardiovasculaires graves provoquées par leur maladie rénale. Le cœur et le rein sont très étroitement liés. Les conséquences humaines et financières de la maladie rénale chronique, largement invisible, dépasse très largement celle des seuls traitements par dialyse ou greffe. L'OMS estime que la maladie rénale chronique est en train de devenir la 5e cause de décès au monde. Elle le sera en 2040. Il a récemment décidé d'en faire une des pathologies non transmissibles prioritaires. Pendant longtemps, les options thérapeutiques pour traiter cette maladie rénale ont été très limitées. Et dans ces conditions, l'intérêt du dépistage paraissait modeste et aucun effort de dépistage n'a été mis en place. Et puis cette situation,
elle vient de changer profondément sur ces 4 ou 5 dernières années. Il y a de nouvelles classes thérapeutiques qui ont montré qu'elles pouvaient ralentir la progression de la maladie rénale. Certains de ces médicaments protègent le rein et le cœur et réduisent aussi le risque cardiovasculaire. Et donc, pour la première fois, nous disposons de traitements capables de modifier réellement l'histoire naturelle de cette maladie. Mais ces traitements ne peuvent produire leurs effets que si les patients sont identifiés et traités suffisamment tôt. Et cela change profondément la perspective, y compris pour l'hôpital. Le défi n'est plus de maintenir en vie quelques dizaines de milliers de patients en insuffisance rénale terminale. Le défi, c'est désormais d'organiser un système capable d'identifier, de suivre et d'accompagner plusieurs millions de personnes qui vivent avec une maladie rénale chronique à des stades plus ou moins précoces. Ça suppose de renforcer le dépistage, de mieux articuler la médecine de ville et l'hôpital, d'avoir recours au digital, à la télésurveillance, évidemment, et de mettre en place des parcours de soins capables d'accompagner et d'engager les patients sur le long terme pour qu'ils deviennent de vrais acteurs de leur santé rénale. Autrement dit, l'enjeu n'est plus seulement de mobiliser l'hôpital pour les stades les plus graves, c'est d'organiser un système capable d'agir beaucoup plus tôt pour ralentir l'évolution de la maladie, prévenir ses complications. Et c'est un des défis majeurs de l'hôpital du futur. Il sera plus seulement un lieu où on traite les complications les plus graves, il devra aussi devenir un acteur de l'organisation, de l'anticipation, de la prévention, en coordination avec le reste de l'écosystème de soins. La question de l'hôpital du futur, ce n'est pas seulement l'innovation, l'organisation et la performance, c'est une question profondément politique et morale. La manière dont une société soigne ses membres les plus vulnérables dit toujours quelque chose d'elle-même. Elle dit ce qu'elle considère comme digne d'être protégée, elle dit la valeur qu'elle accorde à chaque vie. Elle dit aussi si elle choisit de regarder les patients comme des objets de prise en charge ou comme des sujets porteurs d'une expérience, d'une parole, d'une expertise. L'hôpital du futur ne sera donc pas seulement jugé à la sophistication de ses technologies, il le sera à sa capacité à rendre les parcours plus justes, plus précoces, plus efficaces, plus humains. Il le sera à sa capacité à prévenir autant qu'à réparer, à coordonner autant qu'à traiter, à écouter autant qu'à décider, à faire les bons choix au bon moment. Et surtout, il le sera à sa capacité à être construit avec les patients, avec leurs associations et non simplement pour eux. C'est peut-être ça, au fond, l'exigence la plus haute pour l'hôpital du futur, non seulement soigner, mais reconnaître pleinement celles et ceux dont la vie dépend de lui. Et donc cet hôpital devra tenir ensemble plusieurs exigences. L'exigence de la science qui permet de mieux comprendre les maladies, de développer les traitements toujours plus efficaces. L'exigence de la prévention, car au XXIe siècle, on ne peut plus se contenter de réparer les maladies lorsqu'elles sont installées. Il faut aussi apprendre à les anticiper et à en ralentir l'évolution. L'exigence de responsabilité territoriale qui fait de l'hôpital un leader des stratégies de santé, capable d'impulser dans son territoire une vision de santé publique, de coordonner les acteurs, de structurer les parcours cohérents au plus près des besoins des populations, tout en rendant compte de son action à travers des résultats mesurables en matière de santé, de qualité de vie, d'équité d'accès aux soins. Et enfin, l'exigence de la démocratie en santé, qui reconnaît que les patients ne sont pas seulement des destinataires des soins, mais aussi des acteurs légitimes et nécessaires des choix qui organisent le système de santé et leur évaluation. Et enfin, pour finir, l'exigence d'humanité, qui consiste à reconnaître, protéger et accompagner celles et ceux dont la vie devient fragile. Car au fond, l'hôpital n'est pas seulement un lieu où on soigne, c'est le lieu où la science rencontre la vulnérabilité humaine et où se met en œuvre, au cœur des territoires, une stratégie de santé qui engage la société tout entière. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.